France Inter, le 18-20.
Au téléphone sonne ce soir, comment lutter contre l'alcoolisme, un fléau qui fait 41 000 morts chaque année en France. L'alcool, deuxième cause de mortalité évitable après le tabac, deuxième cause de cancer, responsable également de maladies digestives, cardiovasculaires, d'accidents, de suicides. L'alcool présent dans 40% des violences familiales, impliqué dans un accident mortel sur trois. Pourquoi une telle hécatombe? Comment aider les 2,5 millions de personnes qui sont dépendantes à l'alcool dans notre pays? Comment leur permettre de s'en sortir? Quels sont les traitements disponibles, les structures pour les accueillir? Comment éviter que les 10 millions de Français qui boivent trop ne sombrent à leur tour dans cette dépendance? Et cela alors que les recommandations en matière de consommation ont été revues à la baisse récemment. Le mot d'ordre, c'est désormais 2 verres par jour maximum et encore pas tous les jours, 10 verres par semaine tout au plus. Et quand on parle de verres, de quoi parle-t-on? Vous le voyez, les questions sont très nombreuses, sans oublier l'aspect politique du dossier, car l'alcool en France, c'est toute une histoire. Avec nous pour en parler ce soir, le professeur Amine Benyamina. Rebonsoir.
Bonsoir.
Chef du service de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, président de la Fédération française d'addictologie, auteur chez Albin Michel de « Comment l'alcool détruit la jeunesse ». Thomas Maes-Martin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes du collectif Baclo Help, qui réunit des patients, des proches et des professionnels de santé. Vous êtes à l'origine de la pétition de Baclofen Sauve des vies, sauvons le baclofène. On en parlera, bien évidemment. Et puis on attend vos appels à vous tous au standard de France Inter 01 45 24 7000.
Claire Servageant, le téléphone sonne.
Et tout de suite, un premier appel, c'est Jérôme qui est en ligne des Hautes-Pyrénées de Vielle-Adour. C'est bien ça? Bonsoir Jérôme.
Bonsoir, oui, Jérôme de Vielle-Adour.
Vielle-Adour.
C'est pas grave.
Ça doit être un endroit magnifique, j'imagine.
C'est
dites-nous
super,
tout Jérôme.
Oui, moi j'appelle pour donner un message positif à toutes les personnes, que ce soit les malades, les familles, par rapport à l'arrêt de l'alcool, parce que c'est possible, c'est difficile. Personnellement, j'y suis arrivé au bout de 6 ans de lutte, on peut dire, et au bout de 7 ou 8 cures, je me souviens plus trop. Avec la prise de, parce qu'on est toujours dans un certain déni dans cette maladie, qui malgré les cures, il faut arriver à, comment dire, une abstinence heureuse. Et le fait d'arriver à une abstinence heureuse, c'est arriver à se sortir du déni de la maladie et se dire que bon, ben c'est comme ça, c'est pas grave, la vie continue et il faut positiver la chose, quoi. Malgré la difficulté.
Merci Jérôme pour ce message positif. Ça fait plaisir de vous entendre et ça va redonner le sourire à nos deux intervenants de ce soir, professeur Amine Benyamina.
Mais c'est merveilleux de commencer l'émission comme ça, parce que très souvent on pense qu'en matière d'addiction, et de l'alcool en particulier, c'est une maladie chronique qui est incurable. Et on a quand même des aphorismes absolument décourageants, qui a bu boira. Voilà, c'est faux. On peut traiter, on peut soigner, on peut même guérir de l'alcool. Et on guérit de plus en plus.
Je ne sais pas si Jérôme est toujours là. Est-ce qu'il est toujours en ligne? Jérôme, ça fait combien de temps que c'est fini ce cauchemar?
Moi, là, ça fait 8 ou 9 ans à peu près. Je ne compte plus parce que je n'y fais pas attention réellement dans ma vie. C'est oublié, quoi. C'est complètement zappé, quoi. Moi, étant cuisinier de métier, par exemple, ça a été difficile à la période où j'étais encore cuisinier. Mais j'arrivais quand même à gérer la chose parce que j'avais cette abstinence heureuse et que j'avais fait mon deuil, quoi, on va dire, tout simplement, quoi, par rapport à la maladie, enfin à l'alcool surtout. Parce que c'est particulièrement compliqué par rapport au fait que l'alcool, quand on arrête, c'est comme si on nous enlevait un organe. On a besoin d'alcool pour vivre. D'où les tremblements matinaux et le fait de devoir boire, pour certains, comme mon cas, de boire et le matin, quoi. Au réveil, on n'a même pas bu le café que déjà on attaque par un verre d'alcool, histoire de calmer les tremblements et le manque d'alcool, quoi.
Vous avez retrouvé goût à la vie, Jérôme?
Exactement. Alors moi, j'ai pris ça comme une compétition, si ça peut aider des gens. Je faisais de l'athlétisme à un petit niveau, hein. Mais donc, je me suis dit, à la ligne de départ, il y aura l'alcool et il y aura moi. Et un jour ou l'autre, je sais pas quand, peu importe, à peu près au bout de 3-4 ans de cure, hein, je me suis dit, eh bien, au bout d'un moment, je serai devant, à la ligne d'arrivée, c'est moi qui arriverai devant, et pas l'alcool. Et donc, pour donner cette image, de pas lâcher le morceau, quoi, et puis un jour, on peut y arriver. Et on doit y arriver, et ça, c'est très possible.
Ben, bravo, Jérôme. Et juste une toute dernière question, ça a tout changé pour vous, J'imagine que ça a aussi tout changé pour votre entourage.
Voilà, c'est ça à quoi il faut penser, en fait. C'est à quoi il faut penser. C'est que l'entourage, il pâtit énormément de cette maladie et ils n'ont pas les clés pour soigner la personne qui est en face d'elle. On n'a pas de volonté pour eux, tout simplement. Alors que la volonté, elle y est. Mais la maladie, le manque d'alcool, cette abstinence à arriver à avoir est trop difficile. Quand on débute, au moins, dans les cures. À part certaines personnes qui arrivent très bien dès la première cure. Hein. J'ai une amie qui a arrêté dès la première cure. Elle a fait un mois de cure et depuis, elle est abstinente. Ça va faire 5 ans peut-être maintenant. Donc, tout dépend des personnes. Il n'y a pas de remède miracle, si ce n'est l'abstinence complète de l'alcool. Et ne pas lâcher le morceau, c'est là qu'elle est la volonté, c'est tout.
Merci Jérôme. En tout cas, pas de fatalité. Hein. On a bien compris votre message et il nous fait chaud au cœur. Merci beaucoup Jérôme. Thomas Maes-Martin, vous qui êtes d'un collectif qui réunit des patients, des proches, comment vous recevez le témoignage de Jérôme?
C'est un magnifique témoignage. Et je suis très heureux d'entendre que des gens s'en sortent sans rien.
Nous, on sans rien, il y a quand même eu des cures.
Alors,
hein.
Bien sûr, mais ce que je peux dire par là, sans médicaments. Et loin de nous, l'idée de dire qu'il faut impérativement passer par un médicament. Mais il y a des gens qui n'y arrivent pas, malgré cette volonté. Et c'est pour ceux qui n'y arrivent pas, même avec la meilleure volonté du monde, qu'on a choisi de se battre pour les médicaments baclofène, dont on va peut-être parler un petit peu.
On va en parler. Amine Benyamina, par rapport à ce que disait Jérôme, il a passé le cap de plusieurs années. Qu'est-ce qu'on peut dire là? C'est bon?
On part du principe que plus les années s'enchaînent sans consommation, lorsqu'on a été très malade, c'est probablement le cas de Jérôme, et plus on a des chances de ne pas rechuter. On peut avoir parfois, on peut repiquer un peu, des faux pas, mais on voit qu'il est dans dans une dynamique qui est positive. Il dit que j'ai une abstinence heureuse. On peut s'arrêter de consommer en étant malheureux avec la nostalgie de la consommation et on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui nous manque. Non, on est amputé quelque part. Ce n'est pas son cas. Et c'est un travail que probablement il l'a fait. Je ne sais pas s'il a été sous traitement, probablement il a dû être aidé, même si ça n'a pas été le cas. Il a vraiment mis en place une compensation dans son existence. Parce que parfois l'addiction, l'alcool en particulier, vient digérer finalement à la fois le corps, l'esprit, l'environnement et le temps de la personne. Et on a le sentiment que point de salut, point de vie, sans la présence de cet ennemi de l'intérieur et de l'extérieur qui devient ennemi de l'intérieur.
Alors,
et là, c'est important.
On va évidemment parler des moyens d'arrêter, mais on va prendre d'abord Marilyn qui est au téléphone. Bonsoir Marilyn. Alors bonsoir. Moi, j'ai pas d'indication sur l'endroit d'où vous appelez, Loire-Atlantique, me dit-on. Oui. Beau département.
Oui, c'est ça.
Et vous êtes infirmière?
Je suis infirmière, cadre de santé, et mon père est alcoolique. Et moi, je voulais alerter sur la marginalisation des patients en service de soins généraux qui sont atteints de pathologies alcooliques, puisqu'on les considère assez mal, je pense par méconnaissance, mais on les considère comme manquant de volonté, c'est de leur faute s'ils en sont là. Et ça, j'ai trouvé ça hyper dur pour mon père à vivre, mais aussi pour leurs proches. Et du coup, il n'a pas été aidé, passé la phase aiguë, il n'a pas été accompagné psychologiquement ni thérapeutiquement. Et il a rechuté au bout de quelques mois de sobriété. Et je pense qu'il faudrait peut-être former les soignants du MCO à l'addicto, un petit peu au moins sensibiliser, quoi.
Merci Marilyn pour ce témoignage, Amine Benyamina.
Ce que vient d'être dit est capital. On a affaire à la double peine des personnes qui souffrent d'une vraie maladie, hein, c'est pas d'un vice, une vraie maladie qui est l'alcoolisme, et qui par ailleurs, demandant de l'aide, se retrouve condamné sur le plan social, et même par le corps médical, ou le corps soignant, un peu moins maintenant.
Mais ça vient d'où? C'est parce qu'on est dirigé vers des services qui ne sont pas spécialisés?
Alors,
c'est
oui,
quoi le problème?
Ça peut être le cas, et en même temps, on a un pensif comme ça, une espèce de pensif commun, hein, le corps soignant.
On peut quand même imaginer que dans des services spécialisés, on ne va pas culpabiliser les gens.
Ce n'est pas le cas. Mais on partage finalement des opinions alors que c'est le professionnel qui doit s'exprimer. Il y a une espèce, à l'insu de soi-même finalement, une espèce de condamnation et parce que la personne qui boit de l'alcool, elle nous rappelle finalement la possibilité que nous ou quelqu'un de proche peut l'être, donc un vrai rejet. Alors qu'on a affaire à des personnes souffrantes d'une maladie qui annule sa capacité à s'abstenir. tenir. Et il y a des moyens de traiter. Et là, c'est extrêmement important parce que c'est, je le dis souvent, c'est la double peine.
Thomas Maes-Martin, cette façon de stigmatiser les personnes malades quand elles arrivent dans un service, c'est quelque chose que vous avez pu entendre dans votre entourage ou dans les personnes adhérentes à votre association?
Énormément de témoignages qui vont dans le même sens. Et c'est pour ça qu'on a tendance à militer pour qu'il y ait le plus systématiquement possible un aidant qui accompagne la personne dans son processus de guérison, si on peut utiliser le mot, ce serait bien, de guérison. Et on pense que c'est bien aussi, et que c'est nécessaire que, quelle que soit la voie qui va être choisie pour aider la personne à sortir de l'alcoolodépendance, qu'elle soit médicamenteuse ou non, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit un encadrement de tout type, il faut qu'il y ait un accompagnement social qui soit mis en place, en tout cas qui soit proposé parallèlement. Et bon, nous on parle de baclofène, mais il y a plein d'autres solutions.
En tout cas, ce que vous conseillez à des personnes qui sont en souffrance, soit qui s'adressent directement à une association, ou que ce soit les proches qui s'adressent à vous, c'est de se faire accompagner, de se faire aider, ou d'adhérer à une association, de ne pas y aller tout seul.
Impératif, je crois vraiment que c'est important, parce qu'il y aura toujours un moment ou un autre où la personne qui est dans l'alcoolodépendance n'a pas vraiment assez de recul pour savoir où elle en est, pour savoir si elle a commencé à décrocher. Et il y a des moments aussi où, quand elle aura commencé à décrocher, ben le moral flanchera, elle aura tendance à vouloir reprendre la boisson. Et je pense que c'est important qu'il y ait un accompagnant, une personne de confiance, comme ça s'appelle dans le langage administratif, qui puisse, ben, par exemple, faire le lien avec le généraliste ou l'addictologue ou le psychiatre qui va être le prescripteur du médicament.
Ce qui est assez édifiant en France, on vit dans une société dans laquelle il est normal de consommer, en ignorant les liens possibles entre la consommation et les dégâts liés à la consommation. En revanche, il est anormal d'être malade de cette consommation. On vit dans quelque chose qui est absolument édifiant. Et tout le travail de la prévention, ce n'est pas d'interdire aux Français de consommer, c'est de dénormaliser la consommation de l'alcool. Et là, c'est tout le travail qui peut aider les soignants et même les décisions politiques à toucher la cible. Et c'est vraiment le nœud actuel de l'impossibilité de mettre en place une vraie politique de prévention contre l'alcoolisme.
Je vous livre le témoignage d'Hubert qui nous a contacté par courriel. Il est extrêmement difficile, lorsqu'on n'habite pas une grande ville, de trouver une aide pour sortir de l'alcoolisme. C'est un véritable parcours du combattant malgré ma motivation. Je n'ai toujours pas trouvé de soutien. C'est un vrai souci ça aussi, Thomas Maes-Martin?
Oui, on le constate aussi dans les témoignages, que pour l'alcool, pour comme d'autres choses, il est plus facile d'être soigné quand on habite une très grande ville. Et il est aussi plus facile d'être soigné quand on a l'argent que quand on n'en a pas, même si en théorie on est dans un système qui traite tout le monde de la même manière. Il y a encore, mais ça se raréfie, un rôle de médecin généraliste dans les campagnes qui pouvait assumer ce rôle de suivi et de prendre les patients longtemps. Ça nécessite du temps pour ce type de souffrance de prendre les patients, et on peut pas jeter la pierre non plus aux médecins, parce que ben ils ont leurs contraintes de rentrée pécuniaire,
manque. Et puis il y a de moins en moins de médecins partout, hein. C'est un vrai souci, Benyamina.
Absolument, il y a moins en moins de médecins, et il y a de moins en moins de médecins qui s'occupent d'addiction. On parle de l'alcool, mais on a des problèmes aussi de démographie avec les médecins qui prescrivent des traitements pour les toxicomanes, les personnes, ce qu'on appelle les traitements de prescription par voie orale. Et donc, et on a de plus en plus la disparition des médecins militants, les pionniers. Et ça pose une réelle difficulté. Ce que les pouvoirs publics appellent la démocratie sanitaire. Tout Français vivant sur cette terre a le droit de pouvoir accéder à quelqu'un qui l'aide dans une quelconque maladie. Et les addictions constituent une vraie atteinte à la démocratie sanitaire.
Vous avez des confrères qui ont publié un rapport cette semaine, Amine Benyamina, pour justement essayer de développer les traitements à distance grâce à Internet. C'est quelque chose que vous faites vous-même à
Paul
Brousse?
Oui, absolument, on le fait. Le rapport, c'est le rapport Jean-Pierre Thierry et Michel Reynaud, qui était mon ancien chef de service, pour la petite histoire. Évidemment, il faut absolument développer les alternatives. Mais comme le rapport le dit, ce n'est pas parce que l'on développe la e-santé que l'on va oublier que le contact, le présentiel, est extrêmement important.
Cela dit, il y a des gens qui, paraît-il, préfèrent mettre cette distance
aussi, tout plutôt, à fait.
Notamment dans les petites villes où tout se sait quand on va voir un addictologue.
C'est une capacité de rentrer dans les maisons et les chaumières lorsqu'il est impossible de pouvoir faire la démarche pour aller voir quelqu'un. C'est tout à fait vrai, et puis ça aura sa place et son utilité, absolument.
On repart au standard de France Inter, cette fois c'est Bruno qui est en ligne de Roanne. Bonsoir Bruno, bienvenue sur l'antenne de France Inter.
Bonsoir, j'appelais parce que j'ai un petit souci par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Vous disiez, vous buvez 2 verres de vin et pas tous les jours, et quelque part vous êtes alcoolique. Moi j'ai toujours aimé le vin, j'en bois depuis l'adolescence, je bois effectivement entre... allez, on va dire 40 et 70 centilitres de vin par jour. Le seul moyen que j'ai dans ma journée de faire un break, c'est de manger au restaurant. Je travaille entre 10h et 12h par jour. Je bois 1, 2 verres, peut-être 3 verres de vin au cours du repas. Je fais systématiquement une sieste derrière parce que ma journée est longue et j'ai besoin de 10 minutes, un quart d'heure de sommeil, de sieste. Voilà. Et ça m'embête qu'on me dise que je suis alcoolique. Effectivement, je peux pas me passer du vin, mais j'ai un certain caractère, j'ai une certaine puissance de caractère, je m'assume, j'ai donné mon nom, j'ai donné ma ville, j'ai été caviste pendant très longtemps, donc maintenant beaucoup de gens savent qui je suis, mais je m'assume et j'ai mon caractère, et mince, je suis pas alcoolique, quoi. D'accord, je suis incapable de m'arrêter, mais je suis pas alcoolique.
Merci.
Enfin, je pense pas.
Eh bien, on va poser la question. Merci beaucoup, Bruno, de nous avoir appelé. Professeur Amine Benyamina, qu'est-ce que vous pouvez répondre?
Sur les seuils de Santé publique France, Santé publique France a mis un seuil à...
Il vient de l'abaisser, d'ailleurs.
Absolument, ils l'ont abaissé.
Est-ce qu'on peut en dire un petit mot?
Oui, on a baissé le seuil pour dire qu'à partir d'un temps, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, Claire, l'idée, ce n'est pas de dire que, au-delà des seuils, on a affaire à des personnes qui sont ou deviennent alcooliques. On dit que les risques sont proportionnels au-delà, les risques, et on ne parle pas de maladie. Et lorsqu'on n'arrive pas à arrêter de consommer, il faut se poser la question des rapports qu'on a aussi avec l'alcool. Combien même on ne se sent pas en difficulté. Je ne parle pas d'alcoolique, c'est un terme déstigmatisant que je n'aime pas. Donc il faut quand même se poser la question, bien qu'on soit convaincu qu'on a sa propre liberté. Mais là, quand on n'arrive pas à arrêter, on peut se poser sur sa liberté de s'abstenir aussi. Hein. Ce que vient de dire le...
Ça doit interroger, c'est ce que vous nous dites.
Ça doit interroger, probablement. Et même certainement. Et ce n'est pas... il ne faut pas attendre l'apparition des dommages, hein, qui peuvent être physiques, psychologiques et même environnementaux, pour se poser la question sur son lien par rapport à l'alcool.
Thomas, Maes, Martin, peut-être un petit mot, mais ce qui serait bien, c'est que vous vous rapprochiez du micro. Voilà, merci. Merci beaucoup sur ce que vient de nous dire Bruno.
Je crois que c'est le mot-clé, c'est liberté. Quand il ne s'agit pas de faire le procès et l'intégrisme et de dire à chacun pas d'alcool, c'est pas bien. Non, l'alcool pose problème quand la personne n'a plus sa liberté de choix. Quand elle commence à perdre son environnement social, familial, quand elle commence à mettre en danger ses organes. Et c'est à ce moment-là que doit se poser la question de savoir si elle doit lever le pied ou pas. On a parlé tout à l'heure d'abstinence heureuse, et c'est une notion effectivement qui est intéressante.
C'était Jérôme qui disait ça.
Parce que... en ce qui nous concerne pour le baclofène, on a une notion d'indifférence. Ce médicament, contrairement aux autres, il permet non pas... On peut obtenir l'abstinence grâce au baclofène, mais on peut aussi obtenir l'indifférence. C'est-à-dire que la personne peut continuer à avoir plaisir. Et c'est important le plaisir dans la vie, y compris pour la santé mentale, y compris pour la santé physique. Ce baclofène permet d'atteindre à certaines doses l'indifférence tout en se permettant d'avoir un verre convivial, etc.
Amine Benyamina, peut-être un petit mot à ce stade. Mais j'ai encore des questions à vous poser sur la consommation, mais on peut s'arrêter sur le baclofène.
C'est très important parce
deux
que
secondes.
Là, tout à fait.
On rappelle quand même que le baclofène, c'est toute une histoire. C'était un décontractant musculaire qui a été utilisé pendant des années avant qu'on se rende compte qu'il avait un effet.
Sur, absolument. Hein, c'est le mot. Il y a une véritable.
Il est autorisé depuis quoi, octobre.
Absolument, tout à fait. Il y a eu plusieurs épisodes. Le dernier en date, c'est que l'agence qui régule finalement les médicaments a bridé la posologie, c'est-à-dire la dose quotidienne journalière, pareil, à 80 mg, et qu'on sait pertinemment que pour beaucoup de patients, il faut aller au-delà. Bon, ensuite, ça, c'est des querelles techniques, et je pense qu'il y a des plaintes en cours. On verra bien des plaintes au sens... on peut essayer d'avoir à la fois la sécurité et la prescription. ce qui est important, cette indifférence est importante parce que ça permet de ne pas avoir pour seul objectif l'abstinence. On sait de plus en plus que le dogme de l'abstinence a exclu pratiquement 90% des personnes en difficulté avec l'alcool. Et le fait de pouvoir limiter les dégâts liés à la consommation et de réguler finalement la personne dans son environnement et dans sa biologie, et en maintenant même un peu de consommation, le mot est dit, eh bien ce n'est pas... On est vers la fonctionnalité, on est vers quelque chose qui est dans le soin et qui même ressemble à de la guérison.
Et justement, il y a Georges par mail qui nous demande est-ce qu'après avoir été alcoolique, on peut reprendre une consommation d'alcool normale, boire seulement un ou deux verres par semaine, par exemple.
Ce n'est pas impossible.
C'est possible, Thomas Maes-Martin.
On a plein de témoignages qui arrivent tout à fait à concilier une consommation modérée sans retomber dans des démons passés. Oui.
Alors par rapport aux doses autorisées, ça fait partie des revendications de votre association, le collectif Baclohelp. Vous demandez-vous à ce qu'on puisse donner plus aux patients, c'est
voilà.
Ça
alors pour la petite histoire, on ne va pas faire trop technique et on va faire le plus court possible, mais effectivement c'est un médicament qui a commencé à être donné à partir de 1974 pour une autre maladie. Et puis dans les années 2000, un médecin qui était cardiologue, Olivier Amessen, qui était lui-même alcoolodépendant, a tout essayé. Il a essayé, je crois qu'il disait dans son livre qu'il avait fait plus de 100 cures.
Dans son livre, Le Dernier Verre.
Le Dernier Verre. Et malheureusement, pour lui, à chaque fois, ça se concrétisait en une rechute. Et puis, il s'est intéressé à quelques études très, très spécifiques sur des souris, et il a vu que le baclofène pouvait avoir un effet sur la consommation. Il a essayé sur lui à différentes doses, et puis il est allé jusqu'à des doses très, très hautes, et il s'est aperçu chez lui, ça l'amenait à l'indifférence, justement. C'est-à-dire qu'il pouvait, il racontait qu'il pouvait passer devant une vitrine de bouteilles de whisky sans avoir envie d'acheter la bouteille. C'est ça, c'était des notions nouvelles parmi les médicaments qui habituent sur le marché.
Donc pour vous, c'est une révolution quand même, ce produit.
Alors, je sais que c'est pas bien de dire que c'est un médicament miracle, mais moi, sur ce que j'ai constaté chez les personnes qui l'ont pris, ça a sauvé leur vie. Alors avec des effets secondaires peut-être au début, alors surtout quand c'est mal donné ou mal pris, mais quand c'est bien donné, bien pris... C'est assez
Donc pour vous, il faudrait aller plus loin que ce qui est autorisé
alors,
actuellement.
Évidemment, la plupart des gens, 80% des patients qui l'essayent ont besoin d'aller à des doses nettement supérieures à 80 mg par jour. Donc si vous limitez à 80 mg par jour, pour des raisons totalement administratives, parce que la seule étude qui dit qu'il ne faut pas aller plus de 80 mg par jour, c'est une étude qui a été critiquée par les épidémiologistes, notamment des personnes britanniques et allemandes, c'est ce qui va passer devant le Conseil d'État. On ne va pas rentrer trop dans le détail, ce sera ennuyeux. Mais les études cliniques sérieuses, récentes, elles disent toutes qu'à des doses qui vont jusqu'à 300 mg, 270, 300 mg par jour, ça ne pose pas de problème si c'est pris correctement, si c'est suivi correctement. Donc évidemment qu'il ne faut pas... C'est une perte de chance considérable de limiter à 80 mg par jour le baclofène.
Il est indéniable que certaines personnes, même beaucoup de personnes, répondent à des doses au-delà de 80 mg. C'est vrai, c'est la réalité, Jules.
Mais c'est quoi, c'est une frilosité française? C'est différent
non,
ailleurs
c'est une analyse de dossier qui a été critiquée, évidemment, qui a montré qu'au-delà de cette dose, on avait des effets secondaires, semble-t-il, et référencés et rapportés par la NSM. Bon, voilà, donc il y a une vérité et des contre-vérités. Pour autant, pour ceux qui ont l'habitude de prescrire, c'est ma part, pour ma part c'est le cas, il m'arrive d'aller au-delà, soit de le signaler, soit de ne pas le signaler, évidemment, il faut le signaler. Parce qu'au-delà, on n'est pas dans ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché. Mais pour autant, je pense que à terme, je suis assez optimiste, parce que finalement, qui a raison, c'est la réponse du patient. Et on, dans la vraie vie. Et on verra ce que ça va donner dans quelques années.
Parce que, à part ça, vous n'avez pas grand-chose comme
si, on a quand même d'autres médicaments. Si. On a d'autres médicaments, mais il n'y a pas que des médicaments. Il y a des techniques de prise en charge, il y a l'accompagnement, il y a les psychothérapies, il y a la sociothérapie. Et donc ça aide beaucoup. Les médicaments dans les addictions sont très secondaires par rapport à l'efficacité de la prise en charge globale.
J'en reviens à ce dont on parlait tout à l'heure avant d'aborder la question du baclofène, sur la quantité d'alcool et puis la dépendance, parce qu'on a aussi une question de Laurence par mail qui nous dit, on dit que la dose limite c'est 2 verres par jour, donc 10 verres par semaine, est-ce que c'est la même chose si on boit ces 10 verres en un soir ou deux?
Et là, peut-être qu'on va rejoindre la question du binge drinking chez les plus jeunes, Amine les Benyamina.
Divers, par définition, les divers en un soir, c'est excessif parce que ça a un effet de traumatisme vis-à-vis sur le plan physique et sur le plan évidemment circulatoire. Et le binge drinking, c'est la consommation d'une grande quantité d'alcool qui arrive à un dosage au-delà de 0,8 g d'alcool pur dans le sang en moins de 2 heures, quoi. En gros, c'est voilà. Mais quand on prend 10 verres en une seule prise, on a un rapport à l'alcool qui est particulier. Et d'ailleurs, ce qu'on n'a pas dit, c'est que lorsqu'on prend 2 verres, il est conseillé de prendre de l'eau à côté, de prendre beaucoup d'eau pour pouvoir en quelque sorte diluer et éviter l'effet toxique de l'alcool sur l'organisme.
Et ne pas faire comme les jeunes qui sont cités dans votre livre, Comment l'alcool détruit la jeunesse, où on a ces témoignages, notamment on voit ces adolescentes qui font exprès de venir à des soirées à jeun pour pouvoir se saouler le plus vite possible, le plus efficacement possible.
Avec une atteinte viscérale qui est extrêmement inquiétante.
On repart au Standard de France Inter. Cette fois, c'est Alice, elle est en ligne de Nantes. Bonsoir Alice.
Bonsoir les amis, merci d'avoir pris mon appel. Donc moi je suis proche de malade alcoolique, c'est le sujet de mon mari. Nous avons monté un collectif de proches de malades pour être reconnus, pour être entendus, parce que la souffrance des proches, elle est terrible. On parle d'un malade alcoolique, mais derrière on a 5 ou 6 personnes qui souffrent, donc ça fait plusieurs millions de Français. Il s'agit d'une famille qui est gravement malade. Il s'agit d'une famille qui est dans le silence, qui se tait, qui a honte. Et nous, les proches, on n'a pas beaucoup de place dans le soin. On est considérés comme des codépendants ou des victimes, alors qu'en réalité, nous sommes des aidants. Moi, j'ai épousé un mari qui n'était pas alcoolique. Il est devenu. J'étais perdue par rapport à son alcool. Toutefois, j'ai gardé les rênes du foyer. J'ai travaillé, j'ai éduqué les enfants, j'ai tenu la route. Et que ce soit chez les médecins ou les professionnels, nous, les proches, on n'a pas notre place. L'entourage des proches au niveau national, c'est une véritable priorité de santé publique à prendre en considération, parce que ça donne des familles monoparentales, ça donne des dépressions, ça donne des alcoolisations, ça donne des tentatives de suicide. Moi, j'ai coûté 25 000 € à la société pendant 3 semaines pour une dépression. Et je trouve que c'est inadmissible. Si on m'avait un peu accompagné, aidé, écouté, voilà. Donc, dans notre collectif, nous demandons, nous sollicitons un numéro national pour que les gens qui sont perdus, qui ne savent pas à qui s'adresser, qui sont seuls avec quelqu'un qui est dans le déni de l'alcool, dans la dépression, ou peut-être même dans la violence verbale simplement, c'est-à-dire cette violence pour laquelle on ne va pas porter plainte, que ses proches puissent s'adresser, être écoutés, entendus et redirigés vers des structures d'aide. Moi, professionnellement, j'étais quand même bien impliquée. J'étais complètement paumée quand j'ai découvert que mon mari était malade alcoolique et je ne savais pas où m'adresser. Voilà. Donc notre souhait, c'est d'avoir un numéro national accessible à tous pour nous écouter, écouter les malades, écouter les proches et les réorienter vers des structures, parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un XAPA quand on a la tête dans le guidon. On ne sait pas ce que c'est que assistance, alcool assistance ou d'autres organismes. À l'ANON, par exemple, on n'en a jamais entendu parler et on ne sait pas où s'adresser. Voilà, c'était ça mon témoignage.
Eh ben, merci beaucoup Alice pour ce témoignage qui rejoint ce que vous nous disiez au début de l'émission, Thomas Maes-Martin.
C'est une excellente initiative, cette idée de numéro national. Et je crois qu'elle met vraiment le doigt sur quelque chose, une chose sur laquelle on n'insiste pas assez. C'est il y a le coût en vie de l'alcool. Mais il y a le coût aussi en drames familiaux, en drames professionnels. Et je pense qu'on sous-estime largement le coût de tout ça. C'est vrai que les aidants n'ont pas d'existence légale. On commence tout juste à avoir des assurances, des groupes, des mutuelles qui commencent à proposer de soulager les aidants une ou deux journées par mois ou par an pour des tâches. Mais globalement, et on peut élargir ça à la psychiatrie, c'est que les aidants ne sont pas compris dans la lourdeur de la tâche quand il s'agit de s'occuper de quelqu'un qui a un différent trouble ou une addiction.
Amine Benyamina, en tout cas, ce que disait Alice, elle interpelle directement les pouvoirs publics. Là, on va quand même mettre le doigt où ça fait mal sur les politiques qui sont mises en place dans ce pays pour lutter contre l'alcoolisme. C'est là que ça pêche quand même.
Ça pêche beaucoup en matière d'alcool, on le sait très bien. Elle a très bien fait de le faire. Hein. D'ailleurs, c'est un facteur de dissolution environnementale.
Ça paraît un peu fou de penser qu'il n'y ait pas de numéro, d'ailleurs.
C'est une très bonne initiative. On entend bien, il y a des numéros pour le cannabis, pour le tabac, pourquoi pas pour les aidants, pour l'alcool. C'est une bonne chose. C'est même excellent. Et je pense qu'en plus de ça, nous, soignants, on s'appuie beaucoup sur les aidants. Et on leur demande d'être présents, de relayer finalement, c'est des co-thérapeutes. Et on ignore leur souffrance, on ignore les effets dans leur boulot, dans leur fonction de proche. Et je pense que c'est vraiment un gap, comme on dit, c'est-à-dire un manque, un réel manque sur lequel il faut vraiment travailler. Absolument.
Si vous deviez demander deux ou trois mesures urgentes au pouvoir public pour lutter contre les méfaits de l'alcool, ce serait quoi?
Alors pour moi, c'est rétablir la loi Evin dans son périmètre au départ, parce que
Macron a dit que tant qu'il sera là, ce ne sera pas le cas.
Eh ben on lui demandera. On lui demandera quand même. Hein. C'est extrêmement important pour nous aider à cette campagne de dénormalisation, qui n'est pas une campagne pour transformer tous les Français en buveurs d'eau, et donner les moyens à la recherche aussi, parce que on est très en retard en matière de recherche dans les addictions. Il y a très peu de laboratoires spécialisés, et on a de la matière, hélas, on a besoin de produire de la science et de l'information française. Hélas, on est un grand laboratoire, par le nombre de patients et par le nombre de décès, on a une capacité à devenir probablement un grand pays en matière d'innovation dans ce domaine.
On va prendre Claude qui nous attend au Standard de France Inter et qui habite en Seine-et-Marne. Bonsoir Claude.
Bonsoir Madame Servajon, bonsoir messieurs et messieurs les professeurs. Donc moi je suis alcoolique, je me considère comme tel. J'ai commencé à boire vers l'âge de 13 ans à peu près. Jusqu'à il y a encore assez peu de temps, je pouvais boire l'équivalent d'un litre de pastis ou son équivalent qui s'appelle du berger blanc, c'est-à-dire sans la même couleur, par jour, accompagné de quelques bières. Donc je pouvais faire ça. J'ai fait, étant plus jeune, des tentatives de suicide, qui étaient liées généralement à une prise d'alcool ou en corrélation. Avec ça et d'autres soucis, j'ai fait des cures de désintoxication dans plusieurs endroits de région parisienne, hein, c'est-à-dire là où j'habite. J'ai fait des post-cures, enfin une notamment, dans un très bel établissement qui s'appelle Les Épinettes, qui se trouve dans Paris, que je recommande à tout le monde. J'ai fait aussi une post-cure dans un autre établissement qui est à Montévrain, sur lequel j'ai, disons, un peu moins de considération. Un jour, j'ai décidé par moi-même et tout seul d'arrêter, sans aide psychologique, sans médicaments. Et j'ai arrêté de manger pendant 3 jours. J'ai arrêté de manger, en fait, et puis j'ai dû appeler les urgences. Je suis au téléphone. Excusez-moi.
Oui, voilà. Dites-lui que vaut mieux patienter parce qu'effectivement, priorité à l'antenne de France Inter.
Non, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, j'ai ouvert la porte, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je veux dire? Et donc, je me suis retrouvé aux urgences où là, on m'a injecté des trucs pour me remettre un peu en forme parce que je mangeais plus du tout. On m'a donné des médicaments, on m'a mis sous perfusion, on m'a obligé à rester le soir même parce que, selon eux, j'allais pas pouvoir rentrer chez moi. J'allais pas pouvoir rentrer sans tomber par terre. Donc, déjà...
Claude, je vais être obligé de vous presser un petit peu parce qu'il est 55, il nous reste 3 minutes.
Oui, donc, voilà. Et donc, j'ai été mis sous Tranxène.
Et aujourd'hui, ça va mieux, Claude?
Le Tranxène, ça m'empêche d'avoir envie de boire. Et ça m'empêche de boire.
Claude, il y a vraiment des petits soucis de son là dans votre téléphone. Je vous remercie mille fois, mais je vais être obligé de vous dire au revoir parce que on n'a plus que 2 minutes 30 et je voudrais quand même qu'on puisse conclure cette émission, professeur Amine Benyamina, sur déjà ce que Claude a pu nous dire lors de son intervention.
On voit bien que des personnes peuvent être totalement, c'est le cas de dire, noyées dans la consommation sans qu'il y ait d'alerte. Je pense que les éléments qui sont importants pour nous, c'est repérer les personnes en difficulté. Et il y a l'environnement, il y a le médecin de famille, il y a des alertes particulières qui peuvent éviter aux gens d'arriver à consommer une bouteille de pastis et se retrouver dans des difficultés inextricables. Donc il y a une vraie nécessité en France aujourd'hui d'informer les Français sur ce problème. 41 000 morts, on peut les éviter. Il est possible de les éviter en donnant une information, en faisant des vraies campagnes loyales vis-à-vis des problèmes liés à l'alcool qui ne font pas des Français des buveurs d'eau, je le répète. On en est là. Alors, on est très en retard. On parlait en première partie d'émission sur cette réussite de la campagne pour le tabac. Si on pouvait faire au moins la même chose, je pense qu'on sortirait très rapidement d'un problème qui est un déni partagé.
Voilà, on pourrait parler aussi de la publicité. On a des mails qui arrivent à ce sujet parce qu'effectivement, c'est reparti comme en 40, j'allais dire, par rapport à la loi E20 telle qu'elle a été votée en 91. Il y a beaucoup de choses à faire sur la taxation, la fiscalité, etc. On n'a pas le temps malheureusement d'aborder tous ces sujets. Et ce soir, c'était surtout la lutte contre l'alcoolisme. Thomas Maes-Martin, pour vous, la priorité des priorités.
Il est évident qu'il y a un recul au niveau des pouvoirs publics sur la place de l'alcool et sur l'alerte des risques. J'aimerais juste dire que, même si c'est évident, il y a des corps de l'État. Il y a le Conseil économique et social et environnemental, par exemple, qui a publié un avis au début de l'année pour dire on donne pas assez de place à la lutte contre l'alcool, on ne met pas assez en avant ce qui existe, notamment le baclofène. Et je crois que, bon, ben, dans des périodes où il y a trop de pouvoirs qui sont pris par le pouvoir, il faut aussi essayer de voir s'il y a des contre-pouvoirs à essayer de mettre en place.
Merci beaucoup, professeur Amine Benyamina. Le mot de la fin, ce sera pour vous. Que le secteur de la santé reprenne la main sur les autres secteurs,
chacun
peut-être,
métier,
c'est ça?
Nous avons une expertise qu'on met
parce
à
que vous avez l'air d'être tous d'accord, encore
absolument.
Une fois. Hein,
nous
la
avons
santé...
une expertise, nous avons de l'expérience que nous mettons à disposition des décideurs politiques qui nous écoutent et nous avons le sens aussi de la mesure.
Sans imaginer que ça va faire sombrer tout un secteur de la viticulture et que l'économie sera en danger, c'est ça?
Complètement, nous avons même montré des moyens. On s'est mis même à faire un peu d'économie pour montrer qu'il est possible de faire de la santé publique en maintenant évidemment les profits et la culture, parce que c'est souvent ça qui est mieux, non, la culture française que constitue évidemment quelque chose que nous apprécions tous, le vin.
Merci beaucoup, professeur Amine Benyamina. Okay. Merci beaucoup, Thomas Maes-Martin, du collectif Baclo Help, d'être venu ce soir. Merci à tous ceux qui nous ont appelés. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer ce 18-20. Merci aux standardistes qui ont réceptionné vos appels, à Pierre Collat qui a lu vos mails, à la documentation d'actualité dont le travail est si précieux, à la technique ce soir, Nicolas Cazot, Clément Berman et Grégory Vallon.